Bonjour à tous. Là où nous sommes, ça va mieux comme ça, là est Christ. On l'a vu pour ceux qui étaient présents à la retraite la semaine dernière, les disciples ont un peu de mal à comprendre le plan christique, la mission christique et messianique de Jésus. Et ils avaient un problème également, ils étaient tout le temps en train de rechercher une manifestation physique du royaume de Dieu. Et il fallut qu'à plusieurs reprises, Jésus leur dise que le royaume était différent de ce qu'ils imaginaient. Et je crois, frères et sœurs, qu'ils ne sont pas les seuls. Nous faisons partie également de ces disciples qui recherchent bien souvent des manifestations physiques. Et je pense que parfois on se trompe de vision quant au royaume de Christ dans nos vies. De nos jours donc, nous retrouvons le même problème. Et j'aimerais ce matin qu'on puisse souligner une seule chose, mais qui va nous occuper pendant une demi-heure. Le royaume de Dieu est en nous. Ne le cherchez pas quelque part autour de vous, parce que vous ne le trouverez pas. Il est en vous. Vous savez, c'est Paul qui parle beaucoup de cette idée, et il pria en ces termes pour le peuple de Dieu de son temps, et c'est en Éphésiens chapitre 3, verset 16, il dit que Dieu vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Alors, remarquons bien ce que Paul nous dit à travers ce passage. Il ne dit pas « je vous demande d'avoir de bonnes réunions », « je ne vous demande pas non plus que personne ne s'endorme pendant le culte », je crois que pour l'instant on fait un sans faute, mais ce n'est pas ça qu'il nous demande. Il ne demande pas non plus d'avoir une louange sans fausse note. Il ne demande pas non plus une prière où nous casons 7 fois « Seigneur mon Dieu » dans la prière. Et attention, je ne dis pas que ces choses sont mauvaises, mais il nous demande plus que ça. Il demande que notre être, que notre homme intérieur soit fortifié et que le Christ habite dans nos cœurs par la foi. Alors, à la question « Où habite Christ ?», nous avons la réponse « Dans nos cœurs par la foi ». Et c'est cela, être dans le royaume de Dieu. Jésus est le roi et il vient vivre en nous. Nous sommes unis à lui, en esprit, de sorte qu'il règne dans nos cœurs. Nous sommes soumis à son gouvernement dans nos vies. Et il est notre Seigneur. C'est cela, le royaume de Dieu. Paul ne s'arrête pas là, et il continue en disant « En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Être rempli, c'est avoir Dieu en nous, exactement comme l'eau d'un verre plein est dans le verre et non hors du verre. Rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Peut-être on peut s'arrêter sur cette idée-là en disant « Paul, tu vas pas un peu fort là ?» La plénitude de Dieu, la plénitude du Créateur de l'univers, la toute-puissance. Eh bien, si on lui dit « Est-ce que tu sais ce que tu viens de dire, Paul ?» Il va vous répondre « Parfaitement, je le sais. » Et j'ajoute même, et c'est la suite du passage, « Or à celui qui par la puissance qui agite en nous peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous imaginons ou même pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. » Une autre question pour nous ce matin, où agit la puissance de Jésus-Christ ? Elle agite en nous. Parfois on dit que l'apôtre Paul c'est un petit peu le docteur des doctrines, vous savez, celui qui a un peu donné les idées générales du christianisme. Mais le message de Paul, finalement, il est très clair, il s'applique à nos vies quotidiennes. C'est un message très simple, très terre-à-terre et applicable à nos vies de tous les jours. Parfois dans... Allez, je vais m'accuser moi-même. Dans mes exhortations, je suis un peu trop idéaliste. Et on essaye de gravir des sommets de hautes montagnes. Mais Paul, lui, commence là où nous sommes. Il commence par les petites choses de la vie. Et vous connaissez la promesse de l'Écriture à ceux qui sont fidèles dans les petites choses. Le Seigneur nous en donnera de plus grandes. L'Évangile de Paul est vraiment une bonne nouvelle. parce qu'il avait trait à comment vivre. Il parlait de comment vivre maintenant, pas demain, mais aujourd'hui. La vie ordinaire, la vie quotidienne que chacun de nous vivons. Et il a résumé tout cela en une affirmation tout à fait claire. Et j'espère que c'est une chose qu'on va retenir ce matin. En Colossiens chapitre 1, « Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Christ en vous, l'espérance de la gloire. Bien souvent, on a tendance à se fragmenter. Je pense que tout le monde a pu en faire l'expérience. On fragmente nos existences de sorte que nous nous mettons dans des modes. Le mode boulot, généralement du lundi au vendredi soir. En mode détente. En mode maman. En mode privé. Parfois même en mode chrétien. Et même dans notre mode chrétien, on se met en mode corvée de prière avant de dormir le soir. En mode, je m'oblige à venir à l'église, sinon on me posera des questions pour savoir pourquoi je n'étais pas là et je vais peut-être être obligé de mentir. Ou parfois même, on a des modes beaucoup plus justes, tels qu'en mode groupe de jeunes, en mode chorale, en mode prière avec un frère ou une sœur, en mode, je parle de Dieu à mon enfant, à ma famille, à mes amis. Et ce sont des bonnes choses. Mais Christ nous demande beaucoup plus que cela. Christ nous invite à une vie bien plus remplie de Dieu. Les modes suggèrent le basculement d'un mode à l'autre. Alors que notre vie doit être remplie de Christ et de l'Esprit de sorte qu'il n'existe plus plusieurs modes, mais un seul, le mode Christ en moi, le mode vie d'adoration, le mode vie de prière. Arrêtons d'être schizo-chrétien. Alors je fais peut-être une petite digression. Vous savez que le mot grec schizo, c'est dissocié, fragmenté. Et parfois on est ce chrétien fragmenté, dissocié, avec une tendance, comme je viens de le dire, à fragmenter nos vies, comme si nous étions plusieurs à l'intérieur de nous-mêmes. Et ça c'est mauvais, même si Jésus fait partie de ces plusieurs. Nous avons tendance à nous isoler, à déformer la réalité céleste, remplie d'amour, remplie de soumission envers notre Dieu, pour se fourvoyer dans le syndrome, alors là je vais faire appel à ce qu'on a déjà entendu, le syndrome fouilloui, vous savez cette pub avec ses rêves de My Million, c'est ça la vie, c'est d'obtenir une piscine, une grande piscine, une grande maison, c'est pas ça la vie. Demandez à ceux qui ont gagné ces choses-là s'ils sont heureux. Christ en nous, l'espérance de la gloire. On va regarder à présent la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau, entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Et je dis « ancien » et je ne dis pas « premier » parce que on nous dit dans l'Écriture, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est en Colossiens chapitre 5. Et en Ésaïe 43, « ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. » « Voici, je vais faire une chose nouvelle, et cette chose nouvelle, c'est Christ en nous, dans notre vie. » Alors, fondamentalement, la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, eh bien, c'est que dans l'Ancienne Alliance, eh bien, elle agit extérieurement, alors que la Nouvelle Alliance agit intérieurement. Avec l'Ancienne Alliance, il fallait premièrement qu'ils la lisent dans le livre, puis qu'ils essaient de la mettre en pratique. Mais dans la Nouvelle Alliance, et c'est déjà annoncé dans l'Ancienne Alliance en Jérémie, au futur, il dit « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. J'écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Comme si la loi allait être intériorisée dans la Nouvelle Alliance comme un système de guidage incorporé. Et c'est encore annoncé en Ézéchiel « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. » J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et j'y mettrai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et pratiquiez mes ordonnances. Finalement, en lisant cela, on s'aperçoit que nous n'avons plus à nous efforcer d'accomplir la nouvelle alliance. Dieu lui-même nous donne de l'accomplir de l'intérieur. C'est comme une impulsion intérieure, comme une logique divine qui s'installe dans nos vies, qui s'impose à nous. L'Esprit est en nous, dans le cœur nouveau, et c'est lui qui nous pousse à marcher dans la voie de Dieu. Et Jésus l'a très clairement expliqué à ses disciples. Il a dit « L'Esprit demeure en vous et il sera en vous. » En vous. L'Esprit est au-dedans, et ce, depuis la Pentecôte. Depuis la Pentecôte historique, mais aussi depuis notre Pentecôte. Le moment où nous avons accueilli l'Esprit de Jésus en nous. Si tant est que nous l'ayons accueilli. Alors, bien souvent dans nos vies, on vit comme si on ne s'était pas encore totalement converti, et on cherche bien souvent à faire venir Jésus par des petits moyens. Allez, je vais me discipliner à prier une heure par jour, comme s'il s'agissait d'un régime contraint. Et peut-être que Jésus viendra. Certes, l'Écriture nous dit en hébreu, « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. » Mais si vous lisez le contexte de ce passage, cela s'adresse, c'est une exhortation à la conversion de l'âme. En sommes-nous encore là? En sommes-nous encore à devoir nous discipliner pour pouvoir suivre Jésus-Christ? Ou bien l'avons-nous accueilli déjà en nous? Une fois adultes, ce ne sont pas les petits moyens qui impulsent l'Esprit dans nos vies, mais c'est bel et bien l'Esprit à l'intérieur d'un cœur débridé pour Christ qui impulse non pas une heure, non pas deux heures de prière par jour, mais une vie entière de prière. Encore pour comparer l'Ancien et le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, on parle plus, quand on parle de l'Esprit, d'onction. On parle d'onction. C'est parce que l'Esprit agissait davantage sur les gens de l'extérieur pour accomplir ses desseins. Il ne faisait que visiter les gens. Souvenez-vous, Moïse, lorsqu'il descend la montagne, son visage glorieux, et puis ça s'étiole au fur et à mesure. Voilà pourquoi dans l'Ancienne Alliance, il est question d'onction. Mais maintenant, dans la Nouvelle Alliance dans laquelle nous sommes, il n'est pas en simple visite, l'Esprit de Dieu. Il vient avec tous ses bagages pour rester, pour habiter chez nous. Dans la Nouvelle Alliance, on parle donc plus de plénitude que d'onction. Il est en nous. Jésus le déclare lui-même, et il fait une déclaration tout à fait étonnante lors de la fête des tabernacles à Jérusalem. Les foules sont là pour participer à cette grande fête, et Jésus monte au temple et leur annonce cela. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » D'où vient l'Esprit? Pas de l'extérieur, comme nous venons de le lire, mais de l'intérieur. De l'intérieur du croyant, il est en nous. C'est cela la nouvelle alliance, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous n'avons pas, à mon sens, besoin d'étudier pour apprendre comment chercher le Seigneur. Nous n'avons pas besoin d'essayer de l'arracher du ciel pour qu'il vienne nous remplir. Il est venu habiter en nous par l'Esprit et il cherche à se manifester à travers nous. C'est peut-être ça qu'on n'observe pas. La manifestation de Jésus-Christ qui habite en nous. Nous avons besoin d'apprendre à libérer ce que nous avons déjà en nous. Et cela, ça constitue une approche complètement différente de celle que beaucoup d'entre nous avons eue jusque-là. Nous avons essayé de chercher Dieu, essayé d'obtenir de fraîches effusions de l'Esprit depuis le ciel, et peut-être y sommes-nous arrivés, mais combien de temps cela a duré ? La Bible nous présente le fait de Christ en nous, non comme un but à atteindre, mais comme une réalité à accepter et à libérer. Quand nous continuons à penser à Christ comme étant hors de nous et ayant besoin de nous remplir, nous nions ce que la Bible dit. Et on dit en fait qu'elle ment, puisque l'affirmation que Christ est en nous dans la Nouvelle Alliance, c'est peut-être la promesse la plus claire que nous avons dans les Saintes Écritures. Il est évident qu'il nous faut d'abord être sûr que cela s'est effectivement passé pour nous. Est-ce que nous avons accueilli Christ? Est-ce que Christ est bienvenu en nous? Mais une fois qu'il est en nous, il n'a plus besoin d'entrer encore à nouveau. Il nous faut simplement croire qu'il est là dans toute sa plénitude et qu'il ne cherche qu'à exploser dans toute sa gloire et toute sa splendeur dans nos vies. Vous connaissez l'expression « je vais à l'église ». Qu'est-ce que tu fais le dimanche ? « Je vais à l'église ». On a déjà abordé ce débat, mais essayons d'aller un petit peu plus loin et posons-nous la question de pourquoi est-ce qu'on persiste à dire « je vais à l'église » et à appeler donc « église » un bâtiment. On sait bien que le bâtiment n'est pas l'église, mais que c'est l'assemblée qui la compose. Mais on continue à dire « je vais à l'église ». Alors moi, j'aimerais bien savoir comment vous faites pour aller à l'église. Je ne sais pas, vous avez peut-être un système comme les Kawé, vous arrivez à vous rentrer à l'intérieur de vous-même. Mais c'est impossible d'aller à l'église parce que, tout simplement, je suis l'église. Nous sommes l'église. Je sais que nos raisonnements nous diraient « mais oui, c'est bon, Jean-Simon, on sait tout ça, c'est un abus de langage. Tu sais bien que quand on dit « je vais à l'église », c'est « voilà, je vais me réunir avec mes frères et sœurs ». Mais parfois, j'en viens à me demander si le fait que nous persistons à employer des mots qui nous font considérer l'Église comme un lieu où l'on doit se rendre, eh bien, n'explique pas en partie le fait que nous ne sommes pas une Église 7 jours sur 7. Jésus a dit « Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux ». Alors, le matin, quand je prends mon petit déjeuner et que Amy, ma femme, vient me rejoindre, eh bien, l'Église prend son petit déjeuner. Quand Pierre-André, quand Damien, quand Pascal, Marie-Léna et Amy et moi sommes à Domios, un club de sport, eh bien l'église soulève des charges, fait du rameur et du step. Mais c'est ça. Nous le savons dans nos têtes, mais nous ne le savons pas dans notre cœur, de sorte que l'église, et ça c'est bien triste, elle reste ici, dans ce bâtiment. Quand nous croyons en Jésus-Christ, il vient habiter en nous. Son règne est dans nos cœurs, et Jésus entre en nous et devient un avec nous, afin qu'il puisse régner sur nos vies depuis notre poste de commandement, notre cœur nouveau. Où est le Seigneur ressuscité? Je vous pose la question, alors peut-être, vous l'imaginez comme au-delà des nuages, peut-être même au-delà des étoiles, mais où est-il selon les Écritures, selon ce qu'on vient de lire? Il est ici. Il est en nous. Il est venu demeurer en nous, élisant domicile en nous pour manger, boire, faire du sport, travailler, faire une lessive. Il partage notre vie ordinaire, notre vie quotidienne, tout ce que nous faisons tout au long du jour et de la nuit. Quand j'étais plus jeune, je pensais que avoir une vie spirituelle, c'était un petit peu à l'image des ermites, c'était se retirer, de vivre une vie qui finalement n'est pas normale. Je pensais que c'était de fréquenter les réunions de l'Église, de passer beaucoup de temps enfermé dans ma chambre à prier, à étudier la Bible, et ce sont des bonnes choses. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Je considérais qu'être spirituel, c'était quelque chose de différent de la vie ordinaire. Eh bien, c'est complètement faux. Être spirituel, c'est vivre tout son temps avec Jésus, quoi qu'on fasse. C'est être en union avec lui, être un avec lui, et le laisser vous conduire dans tout ce que vous faites, même si vous avez l'impression que ce n'est pas quelque chose de forcément spirituel. Ainsi, vous vivez une vie normale, mais entièrement soumise à la direction de Jésus-Christ. Et c'est cela, être dans le royaume. C'est cela, d'accueillir Jésus-Christ en vous. C'est vivre une vie physique pleine et entière, mais sous la direction interne de Jésus. Alors, on va dire on est à peu près à 65% de l'exhortation en termes de temps, et peut-être là vous êtes en train de vous dire, mais on connaît tout ça. On connaît tout ça. Je ne suis pas venu à l'église. Personne ne me corrige. Marc, j'ai vu que tu avais une réaction. On ne va pas à l'église, mais je conserve quand même mon expression. Je ne suis pas venu à l'église pour perdre mon temps à entendre ces choses que je connais déjà. Jean-Simon, dis-moi plutôt quelque chose que je ne connais pas. J'aimerais vous poser cette question. Est-ce que vous êtes si sûr de connaître cela? Est-ce que vous êtes si sûr de connaître Christ en vous? Nous l'entendons, nous le prêchons, nous le lisons, Christ en nous. Eh bien, frères et sœurs, je crois que maintenant on a compris le concept. Je crois qu'on l'a intégré intellectuellement. Mais c'est le moment de le vivre. Nous avons le concept, mais pas la vie qui va avec. Nous sommes davantage axés sur les concepts et la doctrine que sur la vie. Nous avions une doctrine qui disait que Jésus devait venir dans nos cœurs, et c'est une doctrine tout à fait juste. Mais nous avions aussi une doctrine qui disait que Christ était déjà dans nos cœurs. Le problème, c'est que nous avons confondu les deux. J'illustre ce que je viens de dire par une petite histoire. Je ne sais pas si elle est vraie. En tout cas, elle illustre bien le propos. Un jour, un pasteur annonce à son église de prendre le chant « Viens, sois le roi de tout en moi ». J'aime beaucoup ce chant. Malheureusement, là, dans l'exemple, il sera un petit peu décrié. « Viens, sois le roi de tout en moi ». Et l'histoire dit qu'un membre de l'assemblée s'est levé et a dit « Pasteur, avant de prendre ce chant, est-ce que je peux simplement dire un mot ?» Le pasteur dit « Allez-y, frère. » « Pasteur, si vous ne l'avez pas, sentez-vous libre de chanter, mais pour moi, il est déjà le roi de tout en moi, il n'a plus besoin de venir. Il est déjà là. » Le pasteur, un petit peu gêné, répond « Oui, très, très bien parlé, frère. Prenons plutôt le chant Maranatha. » Un autre membre se lève et dit « Pasteur, puis-je dire un mot avant d'entonner ce chant ? Allez-y, frère. » « Eh bien, pasteur, nous allons chanter « Je suis dans la joie » quand on me dit « Allons à la maison du Seigneur ». Alors, pasteur, sentez-vous libre de le chanter si vous ne l'êtes pas encore, mais moi, j'y suis déjà à la maison du Seigneur, puisque c'est moi. » Petite histoire amusante, mais il faut faire attention à comment nous pensons. Prêtons attention à ne pas confondre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Dans l'une, la promesse du Messie qui vient, dans l'autre, l'assurance qu'il habite en nous. L'assurance de ce Messie en nous. Attention à ne pas confondre Ancien et Nouveau Testament dans nos enseignements. On essaye bien souvent de vivre avec deux maris. Nous voulons être mariés à Monsieur la Loi et à Christ. Et vous savez que l'adultère, c'est très mal toléré par Dieu. C'est un grave péché. Si nous sommes chrétiens, nous ne sommes plus mariés à la loi, de sorte qu'il n'y a plus d'avantage à être juif, ni d'inconvénient à être grec. Nous avons une nouvelle identité, quels que soient nos antécédents raciaux, religieux, familiaux et personnels. Cette nouvelle identité, ce nouveau mari, c'est le Christ, ressuscité en nous et élevé en gloire. J'aborde à présent ma dernière partie, pour ceux qui se demandent quand est-ce que je vais terminer. L'Écriture nous dit ceci, « Cherchez et vous trouverez ». Ça, c'est une phrase que les enfants de Dieu, on a beaucoup entendue quand on était plus jeunes et même actuellement. Phrase de mon père qui, quand on lui demandait « Papa, j'ai perdu cette chose-là »,« Cherche et tu trouveras, frappe et l'on t'ouvrira. » Ça ne marchait pas tout le temps. En tout cas, c'est une parole de l'Écriture, « Cherchez et vous trouverez. » Mais nous, on a tellement pris le pli de toujours chercher quelque chose en dehors de nous que c'est comme si nous n'avions jamais trouvé. La vérité est que nous l'avons bel et bien trouvé. Point n'est besoin de le chercher encore. Si vous l'avez accepté, il est là, juste là, dans votre cœur. Il suffit simplement qu'on ouvre les yeux pour voir que Jésus vit en nous, dans toute sa plénitude et toute sa gloire. On l'a déjà dit et je le répète, Christ n'est pas venu apporter une religion, mais une vie, mais la vie. Il est venu pour entrer en relation avec nous. Jésus, c'est une personne. Et il se trouve que cette personne vit en moi. Il est venu et il reste. Je veux qu'il reste. Il a dit un jour, « Si vous m'ouvrez, je viendrai, et mon Père avec moi, et nous ferons notre demeure chez vous. » C'est clair, il ne faut pas qu'on se mélange les pédales à propos de ça. Jamais nous ne grandirons spirituellement si nous pensons être remplis à un moment, et à l'instant d'après, nous disons être vides. On ne saura jamais où on en est. Alors, vous pourrez peut-être objecter en disant « Oui, mais regarde dans la parole, Étienne, à un moment, on dit qu'il est rempli de l'Esprit dans les Actes des Apôtres. » Étienne qui était un diacre. La parole nous dit « Étienne rempli de l'Esprit vit la gloire de Dieu. » Je vous invite à prendre le contexte de ce passage et à vous demander « Est-ce que Étienne n'a été rempli qu'à ce moment-là » Est-ce que vous croyez que lorsqu'il a été devant le conseil des Juifs, à défendre sa foi devant un parterre de savants, il n'était pas rempli de l'Esprit ? Est-ce que vous croyez que lorsqu'il était diacre, c'est-à-dire il servait le repas, il n'était pas rempli de l'Esprit ? Est-ce que vous croyez que lorsqu'il a été lapidé, il n'était pas rempli de l'Esprit ? Étienne était rempli de l'Esprit depuis sa Pentecôte, et cette plénitude de l'Esprit s'est manifestée tantôt par le service, tantôt par le courage et la sagesse, et tantôt par une vision céleste. Christ en nous. Parfois, quand je prie seul, j'implore Dieu, peut-être ça vous arrive aussi, et vous dites, « Seigneur, je veux entendre ta voix. Seigneur, Seigneur, Seigneur. » Et je lève les mains, je pointe le doigt vers le haut, je pointe le doigt hors de moi, loin de moi, comme si je tendais les mains vers lui. Et peut-être que dans ces moments-là, Jésus me dit, « Je regrette, Jean-Simon, mais plus tu pointes ton doigt vers le haut, plus tu t'éloignes de moi. Moi, je suis juste là. » Je ne dis pas qu'il faut renoncer à lever les mains ou le doigt vers le haut pendant l'adoration ou pendant la louange. Si vous élevez la main parce que vous débordez d'une joie intérieure et que vous voulez l'exprimer extérieurement, n'hésitez surtout pas à le faire. Mais si le fait de faire ces choses vous donne le sentiment que Christ est quelque part, là-dehors, loin, s'il vous plaît, baissez-les. Savez-vous qui en réalité est en dehors ? C'est le Dieu de ce monde. C'est Satan. Mais Christ est en nous. Nous l'avons accepté et dans les promesses que nous avons lues, il habite en nous. Et c'est là le seul endroit où nous pouvons le connaître. Alors, je suis d'accord, de temps en temps, on enferme Jésus à la cave. Et on oublie même qu'il est chez nous. 2-3 mois dans la cave, parfois on oublie qu'on a placé quelque chose là-bas. Mais il habite en nous. Alors ouvrez-lui la porte de votre cave. Et laissez-lui libre accès à toute votre maison. J'en termine par là, nous avons besoin d'être sans cesse conscients du fait qu'il est en nous. Sachons, sans l'ombre d'un doute, qu'en nous demeurent toutes les ressources de celui qui régit l'univers, rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu, nous dit Paul. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alors là où je suis, là est Christ. Amen.